Écoute bien, aussitôt qu'en en mai de 2020, mais là, je travaille de mémoire, puis habituellement, c'est pas payant pour moi, mais le premier qui avait levé un drapeau en disant « Je pense qu'à STQ, ils sont un peu mêlés », c'était Sylvain Tremblay.
Ben, il faut dire que c'est un dossier que je suis depuis le début là comme élu, parce que j'ai toujours vu une source d'augmentation de notre économie locale, là, que ce soit dans tout cas pour nos deux régions. Puis j'ai souvent posé beaucoup de questions. On a fait une demande pour avoir ce comité interrive que les autres services de traversier avaient au Québec, mais que nous autres, je ne comprends pas pourquoi ils n'avaient pas. D'ailleurs, on a perdu un petit peu là, le rythme qu'on avait avant de ces rencontres-là, alors qu'on pourrait les faire quand même malgré tout en Zoom. Là. Puis il y a toujours un suivi de questions. Il y a eu beaucoup de... C'est sûr que la STQ, elle a traversé des difficultés majeures, puis c'est loin d'être non plus... Encore, je dirais, réglé. Puis il y a beaucoup de changements là, au niveau là des employés et des dirigeants. Et avec le nouveau gouvernement, presque 2 ans, ben ça aussi, ça a amorcé aussi une façon de faire la gestion différente. Mais avec tout l'argent qui a été mis dans les services de traversée au Québec là, depuis quelques années, que ce soit, rappelez-vous, Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, les deux nouveaux navires qui a pris beaucoup de temps. Évidemment, à Matane-Bécomo, ça, c'est tout un dossier. Puis là, il y en a d'autres ici. Là, le nôtre, c'est un des plus importants qui est à suivre dans les chantiers au niveau du service de traversée. Fait que moi, j'essaie toujours de suivre ça de proche, puis... Je reste toujours aussi à l'affût des changements et des directions. Puis des fois, c'est pas très clair là, ce qui peut se passer par rapport à ça.
En tout cas, j'ai hâte de voir si, à partir du moment où la STQ s'est engagée à faire d'autres études, que la ville de Rivière-du-Loup a demandé à Tourisme Rivière-du-Loup de faire une étude, qu'on a demandé de réactualiser la vieille étude. Tu sais, je veux dire, bon, étude. J'espère qu'il n'y aura pas un passage à vide qui va être trop long puis qui va finir par nous être défavorable. Puis là, je parle de Rivière-du-Loup parce que le point d'arrivée de la traverse actuelle, c'est que quand il part de Saint-Siméon, s'arrête à Rivière-du-Loup. Quand il part de Rivière-du-Loup, s'arrête à Saint-Siméon. Mais je pense pas, j'ai jamais senti en tout cas que Saint-Siméon pouvait être de quelque manière en danger là-dedans. Donc, moi, j'ai peur du passage à vide pour Rivière-du-Loup. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps.
Effectivement, mais ce qui est étonnant un petit peu avec les études, hein, c'est aussi que ça sert dans des calendriers politiques. Moi, c'est ce qui m'inquiète souvent avec les législateurs, c'est que ça peut servir, hein, comme on le voit aussi avec la question du pont. Là, ça va prendre 2 ans d'études, la même chose ici, au niveau du service de traversier. Puis là, oups, tout d'un coup, on tombe là dans le calendrier là des élections. Puis là, il y a des promesses qui se font d'un bord puis de l'autre. Puis là, oups, bon, ça nous donne 4 ans. Là. Autrement dit, si on passe à travers ça... Alors que si on... Donc, tu sais, il faut pas se cacher ou être naïf non plus. Il y a des gens qui prévoient aussi ces études-là pour que ça sorte au bon moment, dans un calendrier politique par rapport aux législateurs. Ça arrive très, très fréquemment. Puis il faut être prudent, mais il faut suivre ça de proche pour poser les questions, je pense. Puis évidemment, nous autres, comme élus municipaux, il faut aussi être très attentifs parce que ça a des répercussions énormes là, sur nos municipalités.
Oui. On n'avait pas prévu se parler de ça. Donc, on se parle de quoi?
Ben, en fait, j'ai été assez surpris de lire des nouvelles du côté de Radio-Canada, d'ailleurs du côté de Bas-Saint-Laurent, sur la perspective que, puis je savais même pas que ça pouvait se faire, c'est que les producteurs forestiers pourrait avoir une diminution de taxes foncières pour ce qui est des lots, comme on appelle. Je pense que tous ceux-là qui vivent en région, on connaît, donc, il y en a plusieurs qui ont des lots à bois, qu'on appelle, ou carrément des terres publiques, pas des terres publiques, mais des terres privées. Et depuis quelques années, les gens qui faisaient du bois avec un petit revenu là, sur ça, ils le font de moins en moins parce qu'ils payaient énormément d'impôts dessus. Puis évidemment, les taxes foncières ont augmenté parce que de plus en plus, les gens les vendaient ou n'étaient pas capables de payer les taxes. Les familles qui recevaient ça en héritage ne pouvaient pas payer les taxes. Et là, de plus en plus, ça s'est vendu. Donc, ça a fait augmenter énormément le coût des terres. la complexité qu'on vient de nous mettre du côté, dans le fond, des municipalités, c'est de dire, ben là, vous pouvez maintenant diminuer les taxes des lots à bois. Mais je veux dire, la problématique par rapport à ça, c'est quand le voisin, lui, a un chalet, puis lui, il ne baissera pas de taxes, puis toi, ben, parce que tu as une terre à bois, tu vas te faire diminuer tes taxes. Donc, l'équité entre les citoyens, ça, c'est très compliqué. Deux, comment évaluer ça au niveau des municipalités, d'envoyer ton inspecteur dire, ben oui, c'en est une terre à bois, mais l'autre, c'en est pas une parce que il se fait juste une corde. Donc, le gouvernement nous a envoyé, en fait, son problème. C'est-à-dire qu'avant, il y avait au niveau des crédits d'impôt par rapport à ça, puis les gens, ils faisaient 3, 4, 5 000 piastres, puis réussissaient toujours à maintenir leur terre, puis c'était une fierté. Mais là, c'est rendu problématique. Puis au lieu de régler la question au niveau financier du côté, justement, de l'imposition, ben là, on a envoyé ça du côté des municipalités. Mais les municipalités, le seul revenu qu'ils ont, c'est évidemment la taxe foncière. Puis là, de faire une équité entre les citoyens, lequel on va baisser, lequel on peut pas baisser, pourquoi? Fait que ça peut absolument pas fonctionner, ça, ce mode-là. Puis là, ben, on incite, les syndicats incitent à aller voir les municipalités. Fait qu'on va les avoir devant nos rencontres. C'est pas que je les aime pas. Puis ça me dérange pas de les rencontrer. Mais toute la question, de toute façon, des taxes foncières, ça a fait l'objet de beaucoup de rencontres, de comités à travers le Québec en disant le calcul qu'on fait pour faire la taxe foncière, est compliqué. Puis, fait en sorte que c'est sur les ventes, de toute façon, que l'augmentation se fait, puis c'est pas toujours égal. Fait que c'est une question qui devrait être beaucoup plus approfondie que nous pitcher ça dans la cour des municipalités.
À quel niveau la municipalité... Non, m'a posé ma question autrement. Jusqu'où la municipalité a le pouvoir d'intervenir là-dedans?
Ben là, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent que les municipalités décident de baisser, dans le fond, la taxe. En fait, déjà en partant, ça va mal parce que l'évaluation foncière est faite par un bureau, souvent dans les MRC, comme dans le cas de la nôtre, c'est la MRC qui détermine le coût parce qu'on a mis en commun, autrement dit, l'évaluation foncière, parce que c'est quelque chose de prendre toute l'évaluation de tous les bâtiments sur un territoire. Les petites municipalités peuvent plus se payer ça seules, fait que souvent, ça va être fait du côté des MRC. Là, ça veut dire qu'il y aurait une formule qui dirait, ben non, moi, elle, cette terre-là, on va la baisser, elle sert juste au bois. Là, la municipalité, elle serait obligée de dire, ben là, on suit le coût. Donc, déjà, ça serait... Moi, je trouve que ça va être très difficile, très compliqué. Puis deux, ça va être au niveau de l'équité entre les citoyens. Pourquoi moi j'ai une terre puis que je ferais baisser ma taxe alors que l'autre voisin qui fait pas de bois, elle va rester du même prix?
Oui, je comprends.
C'est impossible. Comprends. Donc, en tout cas, moi, je pense que là, le législateur devrait revoir sa façon de faire pour aider, de toute façon, justement, les gens qui, au cours de toute une vie, ont gardé une terre. Puis c'est important aussi de c'est un jardin, hein, le bois, là, si tu le récoltes pas, ben dans le fond, c'est une valeur qu'on perd au niveau de la société. Il y a quelque chose à faire, puis ça nous touche encore en région, parce que du bois, il n'y en a pas à la Ville de Québec. Il faut s'en rappeler.
Hey, Sylvain, en terminant, je me posais une question ce matin, puis je viens de penser, coudonc, je me le demandais à Sylvain Tremblay, parce que je me disais précédemment que je ne savais pas trop par où commencer pour avoir une réponse. Je faisais référence au fait que Mont-Saint-Mathieu, n'eût été de l'implication financière de la MRC des Basques, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait fermé. On apprend que Montcomis, dans la région de la Métis, éventuellement pourrait être acheté par la MRC à la famille Roussel. Dans Charlevoix, le Mont-Grand-Fond, est-ce que la MRC est impliquée là-dedans d'une manière ou d'une autre?
Elle a été souvent impliquée pour donner des subventions pour l'amélioration locative, par exemple. Il y a eu deux ou trois projets, entre autres, le chalet a été rénové.
Ouais, mais ils sont pas propriétaires, ils sont pas actionnaires, ils sont pas rien de ça, là.
Non, mais la ville de la Malbaie est propriétaire.
D'accord.
La ville de la Malbaie, il y a très longtemps, à l'époque là, de la cession, parce que rappelons-nous que c'était l'ancien propriétaire du manoir Richelieu qui en était propriétaire. Puis quand il y a eu... La fermeture avec le propriétaire, à ce moment-là, il y a eu la réflexion régionale que la MRC en fasse l'acquisition. Finalement, c'est la ville qui l'a fait.
Bien, 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 bien. Ah, c'est intéressant, ça. Hey, ça répond à ma question. Merci, Sylvain Tremblay. À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Bye-bye. Sylvain Tremblay, qui est là à la chronique.